Chapitre 13. Très instructif. On en était à la sixième semaine, la dernière qu'on dut passer à Tunbridge, lorsque Mrs. Alberry prit encore une fois à part sa jeune amie et lui demanda son attention pour une demi-heure. « Le temps, lui dit-elle, où nous devons retourner chez nous, s'approche de plus en plus, et je désirerais vous exposer, tandis qu'ils sont encore présents, les avantages que vous pouvez retirer de ce voyage. » Je ne reviendrai pas sur le triste sujet de l'insensibilité de Mandelbert. Elle est assez évidente pour qu'on ne puisse pas s'y méprendre. Mais permettez-moi de vous parler d'une chose que je crois plus réelle encore, c'est la perspective d'un attachement sérieux de la part de Sir Sedley Clarendel. » À ce mot, Camilla voulait rompre l'entretien, mais Mistress Alberry insista pour être écoutée. « Pourquoi, lui dit-elle, dévouer votre jeunesse à un amour sans espérance ? Pourquoi la priver de toute consolation ? Se sacrifier ainsi à l'honneur d'une belle constance peut avoir quelque chose de doux et même de glorieux dans l'âge romanesque de la vie. Mais bientôt le charme disparaît et le repentir succède. Il est évident que la moindre adresse, le moindre encouragement mettront Sir Sedley à vos pieds avec son rang et sa fortune. » Camilla l'interrompit avec humeur, rejetant avec Sir Sedley ou avec tout autre toute alliance fondée sur de semblables motifs et persistant à déclarer que le plus étroit nécessaire avec la liberté était préférable à la plus riche aisance obtenue par un engagement mercenaire. Mistress Alberry la pria de considérer que Sir Sedley, quoique puissamment riche, était si jeune, si gai, si agréable, qu'elle pourrait lui donner sa main sans courir le risque d'être soupçonnée d'un motif intéressé. « Au reste, ajouta-t-elle, je mets ceci en avant pour votre plus grand bien. Mais je n'irai pas plus loin. Il est clair que le baronet, dans le moment actuel, est tellement enchanté de vous, il a tant de vanité, et, comme toutes les vanités, la sienne est si bête qu'en la caressant un peu, elle en fera votre esclave pour la vie et vous arrachera au céladonisme d'un homme qui, s'il se marie jamais, y mettra tant de réflexion qu'il pourra bien arriver à son année climatérique avant d'avoir décidément pris son parti. » Camilla, loin d'être ébranlée par cet entretien, eut besoin de rappeler toute son affection pour Mistress Alberry et de s'en bien pénétrer, pour lui pardonner une attaque aussi directe et une doctrine aussi étrange. La seule considération à laquelle elle s'arrêta fut qu'ayant elle-même provoqué le sérieux attachement de Sir Sedley, elle était condamnée à s'en repentir et n'avait pas le droit de s'en plaindre. Comme elle était plongée dans ses rêveries, on l'appela pour voir un petit oiseau dressé à chanter et à faire de petits exercices curieux. Monsieur Denel et Sir Sedley étaient présents. Elle ne put rencontrer les yeux de ce dernier sans éprouver une sensation qui couvrit son visage de rougeur. Il ne vit pas cette rougeur subite sans émotion et il éprouva le plus ardent désir d'en connaître la cause. Il adressa la parole à Camilla avec une distinction marquée. Elle put à peine lui répondre, mais son silence même était séduisant. Sir Sedley ne put s'empêcher de suivre des yeux tous ses mouvements et de prendre à elle un intérêt dont il fut surpris lui-même. Il commença à douter que ce dernier changement qui s'était opéré en elle fût l'effet de l'indifférence. La douceur de Camilla ranima la vanité du baronet. Il se persuada presque que les railleries de Mistress Alberry portaient à faux et qu'il était plus qu'elle ne croyait le rival de Mandelbert. L'oiseau chanta plusieurs petits airs qu'on lui demanda. Il monta au dernier échelon du bâton, descendit ensuite et fit dans sa cage resserrée différents tours avec une précision étonnante. Camilla fut cependant moins charmée de l'adresse du petit oiseau que révoltée de la sévérité avec laquelle celui à qui il appartenait faisait exécuter ses ordres. Elle lui demanda comment il était parvenu à obtenir un tel empire. Cet homme, avec un mouvement de tête expressif, répondit brutalement: « Par un très ancien moyen, miss, en lui donnant des coups. »« Des coups à ce pauvre petit animal? Est-il possible ?»« Oh, très possible, miss, » répondit cet homme en faisant une grimace. « On n'en vaut que mieux pour être un peu battu, comme je le dis tous les jours à ma femme. Il n'y a rien de bien sans cela, miss. »« Mais comment pouvez-vous le battre sans exposer sa vie ?» dit Sir Sedley. « C'est rappeler, monsieur, le malheur de notre état, » dit cet homme en ricanant. « Car pour un que j'élève, j'en perds 6 ou 7. Quelquefois, ils sont si revêches qu'au moindre exercice un peu difficile, je suis tenté de leur tordre le cou, et quand on les a bien dressés, souvent ils échappent en un clin d'œil. Comment pouvez-vous traiter aussi cruellement, dit Camilla indignée, une chétive et innocente créature qui ne peut comprendre ce que vous lui demandez? Vous le croyez, Miss, détrompez-vous. Ils savent tout aussi bien que moi ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont leurs caprices et leurs bouderies. Celui que vous voyez vient d'exécuter parfaitement ce que je lui ai commandé, mais peut-être dans une heure ou deux, il n'en voudra rien faire. Il faut quelquefois les pincer jusqu'à les meurtrir pour qu'ils se remuent. « Pauvre petit animal, dit Camilla, j'espère du moins qu'à présent qu'il est instruit, il est à l'abri de ses mauvais traitements. » Oui, il est assez docile. Je le récompense quand il a bien travaillé. Cependant, de temps en temps, un peu de correction ne fait pas de mal. Ce sont des drôles rusés. Que je serais charmée, dit Camilla, de pouvoir arracher cette pauvre petite créature à une tyrannie si dure. Alors, tirant sa bourse, elle demanda à l'oiseleur combien il en voulait. Cet homme offrit comme une très grande faveur de céder l'oiseau pour 10 guinées. C'était son gagne-pain, il se ruinait en le vendant, mais il ne voulait pas désobliger la jeune lady. Camilla, avec un rire contraint, mais avec une rougeur très naturelle, remit sa bourse dans sa poche en disant « Tu resteras donc en esclavage, pauvre petit malheureux, car je ne puis te racheter. » Tout le monde trouva que 10 guinées était un prix exorbitant, et l'homme réduisit sa demande à 5. Mais Camilla, qui avait imaginé qu'elle en serait quitte pour une demi-guinée, fut encore plus honteuse de ne pouvoir faire l'acquisition. Elle refusa donc le prix proposé et l'homme fut renvoyé. Mais le soir, en rentrant chez elle, elle ne fut pas peu surprise de trouver le petit oiseau sur sa table, enfermé dans une superbe cage. Elle en fut charmée d'abord et intriguée le moment d'après. Elle courut chez Miss Rizalberry pour savoir comment l'oiseau avait été porté chez elle. Celle-ci en fut aussi étonnée que Camilla. On questionna les domestiques, mais aucun n'était ou ne voulut paraître plus instruit. Camilla ne douta point alors que Sir Sedley n'eût donné à son domestique l'ordre de placer l'oiseau dans son appartement, ce que le domestique avait pu exécuter sans peine par l'accès journalier qu'il avait dans la maison. Elle était enchantée de voir le petit animal plus heureux, mais elle n'hésita point à refuser de l'accepter. Lorsque Sir Sedley vint le jour suivant, elle le descendit au salon et, avec un sourire aimable et ouvert, elle remercia le baronet de lui avoir donné une part aussi généreuse dans sa libéralité, lui demandant en même temps s'il voulait emporter l'oiseau dans sa voiture ou s'il fallait qu'elle le lui envoyât à son hôtel. Sir Sedley fut contrarié. Cependant, il sentit la propos et la délicatesse du refus. Il ne désavoua point la liberté qu'il avait prise, mais il dit qu'éprouvant subitement l'effet sympathique de la commisération dont elle avait été touchée pour ce pauvre animal, il avait ordonné à son domestique de suivre l'homme qui en était possesseur et de l'acheter, qu'à la vérité, il n'avait pas fait attention à l'impossibilité où il serait de prendre soin de ce petit oiseau, que son domestique était aussi peu souvent à la maison que lui-même, et qu'il n'était guère possible d'espérer, dans une auberge, que les filles de service eussent assez de vigilance pour empêcher que ce pauvre animal ne devînt la proie des chats dont l'auberge était remplie, qu'il espérait donc qu'elle voudrait bien le garder jusqu'à leur retour à Hampshire. Camilla, satisfaite de l'explication, aurait accepté ce dépôt avec joie. Mais elle crut voir quelque chose de négatif dans les yeux de Miss Rizalberry. Elle répondit donc qu'elle n'osait se charger d'une pareille responsabilité, qu'elle était pour cela trop rarement elle-même à la maison. Sir Sedley pâlit à cette réponse et dit qu'il valait mieux rendre l'oiseau à son maître, tout brutal qu'il était, que de le laisser à l'abandon. Mais Camilla, en qui les sentiments généreux prévenaient toujours la réflexion, dit qu'elle se condamnerait plutôt à ne pas sortir tout le temps qu'elle serait à Tunbridge. Et en disant ces mots, elle emporta précipitamment l'oiseau dans sa chambre. Miss Rizalberry vint l'y joindre un moment après, loua sa conduite et lui dit qu'elle avait renvoyé le baronet parfaitement heureux. Camilla, très affectée, se repentait d'avoir gardé l'oiseau. Elle était presque tentée de le lui renvoyer. Mais Miss Rizalberry lui fit sentir combien cette conduite serait inconséquente et la dissuada de ce dessein. Cependant, l'esprit de Camilla ne fut pas tranquille. Le soir, au bal, elle trouva la baronnette plus gaie qu'à l'ordinaire et ne cessant de la regarder avec un air qui semblait la remercier du bonheur qu'il éprouvait. Profondément troublée, elle se trouvait alors dans la position la plus délicate, car elle ne pouvait demander d'éclaircissement sans montrer qu'elle s'attendait à un sentiment qu'aucune déclaration de la part du baronnet ne l'autorisait à soupçonner. Et, d'un autre côté, elle ne pouvait se taire sans se jouer de lui et s'exposer à ses justes reproches lorsqu'il apprendrait enfin qu'on n'avait pour lui que de l'indifférence. Mistress Albury la laissa dans cet embarras, persuadée qu'il aurait la plus heureuse issue. Camilla eût voulu consulter Edgar, mais comment s'ouvrir à lui sur un semblable sujet? Edgar lui trouva cependant un air d'inquiétude qui le frappa, et il chercha l'occasion de lui dire « Vous n'avez pas oublié sans doute nos conventions. Puis-je, en ma qualité de conseil et d'ami, vous faire quelques questions ?»« Oh oui !» répondit-elle avec vivacité, « et quand j'y aurai répondu, si ce n'est pas trop vous fatiguer, je vous demanderai à mon tour la permission de vous en faire quelques autres. » « À moi ?» dit-il avec la plus agréable surprise. « Non, relativement à vous-même, » répondit-elle en rougissant, « mais sur quelque chose qui m'inquiète un peu. » « Mais, » répondit-il, en se livrant à un millier de conjectures qui se succédèrent rapidement, « pourrais-je demain matin me présenter chez Mistress Albury ?»« Oh non, j'imagine que nous reviendrons encore ici le soir. » Elle refusa cette proposition dans la crainte qu'une visite à Mistress Albury ne fût pour cette dame le sujet des plus sanglantes railleries. Il fallut finir là cet entretien, car Mistress Albury, tout à coup fatiguée du bal, voulut se rendre à sa voiture. Edgar accompagna Camilla jusqu'à la porte, désirant et craignant à la fois cette confidence volontaire et inattendue. Camilla était encore plus agitée, car elle ignorait si elle ne faisait pas une fausse démarche, en provoquant ainsi un moment d'entretien avec Edgar, mais l'espoir de se guider par ses conseils et de le convaincre de son désintéressement lui fit attendre ce moment avec un plaisir mêlé de trouble et de crainte.